j'étais en train de penser au fait de. Je voulais aussi être en contrat, donc en alternance avec mon collègue Jean-Claude, conseiller politique, vous avez vu, nous ferons d'autres conférences avec un très beau programme. J'espère que vous serez bientôt au courant de ce programme qui est magnifique, avec des thèmes qui n'ont encore jamais été abordés hein, depuis les 3 ans maintenant. Et donc à chaque fois, ça ouvrira de. Enfin, ça permettra de compléter et d'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, d'abord, il faut que je vous en donne quelques indications. Donc, le sujet, en fait, ici, n'est pas une question, c'est une citation. Donc, la citation, je la rappelle, hein, vous l'avez vu déjà, « Rien de nouveau sous le soleil ». Voilà. Donc, c'est pas une question, c'est une citation. « Rien de nouveau sous le soleil », mais comme il est d'usage, lorsqu'il y a une citation qui est proposée à la réflexion, celle-ci doit permettre de construire une réflexion. Dans le langage philosophique, on dit qu'on essaye de problématiser une citation. Parfois, ça peut être un proverbe. Ici, cette expression est devenue même proverbiale. Alors, simplement pour vous donner l'origine de ce sujet, c'est un sujet qui a été donné, d'ailleurs à l'époque, ça avait fait un peu sensation, au concours d'entrée à HEC en 2006. Il y avait 2 sujets au choix. Suffit-il d'être juste ? Suffit-il d'être juste ? Et l'autre sujet, rien de nouveau sous le soleil. Les candidats furent très très embêtés par le traitement de cette question parce qu'ils étaient très surpris par sa forme déjà. Rien de nouveau sous le soleil, voilà. Donc ça c'était pour la petite histoire. Et alors maintenant, voilà, comment est-ce qu'on peut traiter un sujet qui commence par une telle citation ? Bon ben la première chose à faire d'abord c'est d'identifier la citation, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'on peut l'interpréter au départ. Alors, il s'agit d'une citation biblique, qui est connue. Hein. Elle appartient à la Bible hébraïque et elle appartient au livre qui s'appelle le livre de l'Ecclésiaste. Alors, quand on fait un peu de recherche, notamment si on n'est pas trop versé en théologie, on apprend assez facilement, on peut trouver les sources. Cette citation apparaît au verset 1, alinéa 9 de l'Ecclésiaste. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre de l'Ecclésiaste ? Donc, c'est un livre qui est attribué à l'Ecclésiaste. Alors, le mot hébreu, c'est Kohelet. Q-O-H-E-L-E-T. Kohelet qui signifie, très exactement, celui qui s'adresse à la foule. On n'a pas d'autres, enfin, les exégètes n'ont pas d'autres informations sur l'auteur de ce livre de la Bible, le Kohelet, celui qui s'adresse à la foule. Alors pendant très longtemps, certains ont pensé que celui qui avait écrit ce texte, c'était le roi Salomon lui-même. Mais en fait, cette idée s'est révélée fausse. Ce n'est pas le roi Salomon. On date le texte du 3e siècle, oui, 3e siècle avant Jésus-Christ. On n'a pas d'autres informations. Voilà, ça c'est pour le contexte. Hein. Celui qui s'adresse à la foule, donc qui n'est jamais nommé, qui ne s'identifie pas lui-même. Et ce texte est composé d'un certain nombre d'aphorismes, de maximes, un certain nombre de phrases qui ont souvent une tournure un peu proverbiale, comme celle-là, rien de nouveau sous le soleil. Alors, on va faire les choses en 2 temps. Je vais d'abord vous expliquer le sens religieux ou théologique que les spécialistes accordent à cette expression. Et puis après, on verra si à partir de ce sens, on peut transposer cette citation au domaine philosophique. C'est-à-dire un domaine où on ne fait plus référence là à l'histoire religieuse, mais où on fait un travail sur les concepts à partir d'une réflexion rationnelle. Donc alors là, je vais d'abord passer par la théologie. Et lorsqu'on regarde un peu comment cette phrase est entendue, d'abord il faut la restituer dans son contexte, c'est-à-dire dans l'ensemble des autres phrases dans lesquelles elle se situe. Alors, le contexte, je vais vous le lire, c'est-à-dire le paragraphe entier. Et là, peut-être on va mieux comprendre, en tout cas au niveau religieux, théologique, ce que cette phrase signifie. Alors c'est pas long, je le lis. Voilà ce qu'on trouve dans l'Ecclésiaste 1.9. « Vanité des vanités ». Tout n'est que vanité. Quel profit revient à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, et il se hâte vers le point où il se lèvera de nouveau. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer ne se remplit pas. Ce qui a été sera, ce qui s'est fait se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Vois, c'est du nouveau » Cette chose existait déjà au siècle qui nous ont précédés. Rien de nouveau sous le soleil, on est dans le domaine de la répétition. Il n'y a pas de surprise. Alors, bon, est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'entendre? En tout cas, c'est un passage qui est interprété comme l'expression d'un profond pessimisme. Un pessimisme lucide. Et ce pessimisme lucide, alors, encore une fois, au début de mon intervention, je voudrais d'abord le replacer dans le contexte biblique, pour ensuite voir ce qu'on peut en faire d'un point de vue philosophique. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit, donc, les pensées contenues dans le livre de l'Ecclésiaste développent une vision pessimiste, ou en tout cas assez sombre, hein, de l'existence. Pourquoi ? Parce que le passage, l'extrait que je viens de lire, met en avant le caractère immuable de la répétition. Répétition du monde, des événements. Mais cette répétition même, on a le sentiment que l'homme n'a pas d'emprise dessus. Il ne peut pas s'empêcher, enfin, il ne peut rien faire contre la répétition des mêmes choses. Donc c'est aussi, outre ce constat de la répétition des choses, hein, c'est aussi le constat d'une impuissance. On ne peut rien faire. Les mêmes choses arrivent. Et par conséquent, on a là un profond pessimisme. Alors comment est-ce que ce pessimisme peut entrer en cohérence avec, cette fois, le contexte d'un texte biblique qui est censé participer de la révélation divine, quand même, hein. Est-ce qu'on peut mettre en contexte, cette fois, ce texte avec le thème même de la Bible, si je puis dire, hein. Alors il faut aller un peu plus loin, là, et dire que cette absence de nouveauté dont nous parle le texte, aussi bien en ce qui concerne le cours naturel des choses, le mouvement des planètes, comme le cycle des saisons, concerne aussi le cours de l'histoire humaine. Finalement, toute chose est soumise à la répétition du même. Quoi qu'on fasse, ce qui a été sera, ce qui s'est fait se fera. Alors, on pourrait presque parler, pour la Bible ici, hein, de l'expression d'un déterminisme. Le mot déterminisme, c'est un mot qui est très moderne. Hein. Il signifie « les mêmes choses produisent les mêmes effets ». Alors évidemment, il est tout à fait en décalage, là, anachronique, parce que c'est un mot qui est apparu dans le domaine de la physique. C'est le 19e siècle qui définit le mot déterminisme. Mais déjà, on peut parler... alors, si on veut pas employer le mot déterminisme, on pourrait employer le mot de fatalité, ou en tout cas d'un destin interne aux choses. Hein. Les mêmes choses se répètent. Et cette répétition-là, elle concerne aussi bien ce qui nous apparaît bon dans l'existence que comme ce qui nous apparaît comme mauvais. Un exemple, dans l'interprétation qu'on fait du Qohélète, l'idée revient que il y aura toujours, quoi qu'on fasse, des assassins. Il y aura toujours des victimes. Il y aura toujours des bons. Il y aura toujours des méchants, des justes, des injustes. Les choses ne changent pas. Et les injustices qui nous révoltent dans ce monde, elles seront toujours là aussi. Donc vous voyez, il y a un sentiment mais d'impuissance, mais total. C'est l'impuissance à changer le monde. L'impuissance à réformer ce qui, au cœur de l'être, nous apparaît comme scandaleux. C'est pour ça qu'on considère que c'est un des textes les plus pessimistes de la Bible, hein, ça. En raison même de cette impuissance sous-jacente à la mise en évidence de la répétition des choses. Donc, ce qu'on peut dire, et là j'en termine avec l'interprétation, on va dire, purement théologique de ce texte, hein, le texte de l'Ecclésiaste réfute ainsi toute capacité révolutionnaire de l'homme. Révolutionnaire, ça veut dire toute capacité pour l'être humain, à s'opposer au retour des mêmes choses, à la répétition. Une capacité révolutionnaire qui seule pourrait briser les anciens ordres. L'ordre ancien, pour imposer une ère nouvelle, un nouveau rapport entre les individus, entre eux et entre les individus et le monde. Cette capacité à se réformer, le texte nous dit ce n'est pas possible. Rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire que rien ne changera. Les mêmes problèmes se reproduiront, alors parfois sous des dénominations différentes, dans des contextes historiques différents, mais ce sera toujours la même histoire, qui se répète. En fait, on vit la même histoire, tout le temps. Voilà, pas de capacité de réforme. Vous vous rendez compte, c'est un texte, si on va jusqu'au bout, qui peut ne nous placer que dans un profond désespoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a finalement, il n'y a rien à attendre de l'avenir. On se dit un jour, ça sera mieux. On espère les lendemains qui chantent, enfin, en prenant cette phrase d'un contexte vers un autre. Ben non. Dans 1000 ans, 10 000 ans, ce sera pareil. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, vous avez compris l'idée de ce profond désespoir. Alors, avec nos yeux de lecteur moderne, on va dire donc que ce texte n'accorde aucune confiance aux capacités réformatrices de l'être humain, aussi bien au niveau moral que dans d'autres domaines d'ailleurs, à la capacité à transformer l'histoire, et de cette impuissance humaine à briser la répétition. Le texte de l'Ecclésiaste en tire une conclusion directe sur notre conduite. Parce que je vous rappelle quand même que la morale, c'est une discipline qui a pour but de réformer l'homme, de le faire changer, de lui donner les règles qui vont le faire sortir de la brute domination des instincts et des pulsions. La morale est faite pour réformer l'homme. Et ce texte-là donne le sentiment que ça ne sert à rien. L'homme ne se réformera pas. Les mêmes choses se répètent. Donc, voilà, si on va jusqu'au bout, il faut reconnaître que tous les efforts accomplis par les individus sont vains. C'est d'ailleurs pour ça, je vous le rappelle, que le texte commence par « vanité des vanités ». Ici, le mot « vanité », vous l'avez compris, ne désigne pas l'orgueil, comme on dit de quelqu'un qui est vaniteux. Ici, « vanité », ça veut dire « caractère de ce qui est vain ». Inutile. Vanité des vanités, ça veut dire que tout n'est que vanité, c'est vain, ça ne sert à rien. L'homme ne se réformera pas. Je suis en train de me dire que j'ai rarement rencontré au cours de mes études un texte aussi profondément pessimiste. Mais c'est vrai, il y a de quoi devenir dépressif là. Bref. Alors, donc voilà, et alors, le texte termine en disant que la seule leçon de vie que possède le sage, c'est cette conscience aiguë de la vanité de l'existence et de ses efforts pour l'améliorer, pour la réformer, c'est vain, quoi. Et l'Ecclésiaste nous dit que cette sagesse, c'est-à-dire la compréhension de la vanité du monde et des choses, nous rend encore plus malheureux. Là, c'est bon. Elle ne soulage pas notre âme, et surtout, elle met, alors ça je trouve ça très fort comme idée, elle met sur un même plan le sage et le fou. Le sage et le fou sont tous les deux autant malheureux l'un que l'autre. Le premier, donc le sage, l'est par le poids de sa connaissance de la vanité des choses. Donc le sage est malheureux parce qu'il est lucide, parce qu'il est, il a la lucidité du pessimisme en fait. Et le fou, c'est celui qui est malheureux parce que il subit à travers ses passions, à travers les sentiments qui le dominent, les effets mêmes de la répétition, les effets mêmes de ce déterminisme, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, est-ce qu'on peut terminer la référence au texte biblique sur ce constat ? Non, il faut quand même rajouter que le texte a aussi une fonction apologétique. Et d'abord, d'ailleurs, une fonction apologétique. Le texte biblique veut nous dire... Donc là, je lis parce que là, c'est vraiment très précis, que pour l'Ecclésiaste, ce constat ne doit pas nous amener à un nihilisme, c'est-à-dire à l'idée que finalement plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de sens. Le texte a une autre finalité, au contraire, une finalité donc apologétique, c'est-à-dire qu'il veut faire l'apologie du rapport à Dieu. Voilà ce que dit exactement ce que disent les commentateurs. C'est que ce texte cherche à mettre en relief, sur le fond de la vanité humaine, la nécessité de l'obéissance à Dieu et à ses volontés, même si celles-ci sont souvent incomprises pour ceux qui vivent sous le soleil, c'est-à-dire les êtres humains. Donc c'est une manière de soumettre la raison humaine à l'ordre divin pour échapper au malaise que procure le sentiment de la vanité, de la futilité de toute chose. Et le texte se termine par le texte du Colette par une phrase, donc verset 12, paragraphe 13, donc texte de l'Ecclésiaste se conclut par ces mots, que la recherche du sens de la vie doit nous conduire à reconnaître que le devoir primordial de l'humanité, donc là j'ouvre les guillemets, est de craindre Dieu et garder ses commandements, car c'est là tout l'homme. Vous voyez, donc c'est un texte qui ensuite nous ramène à une soumission à la volonté divine. C'est pas un texte qui nous amène vers une philosophie de l'absurde, hein. C'est pas une philosophie, un texte qui nous amène vers un nihilisme philosophique. C'est un texte qui nous amène vers une soumission. En fait, la soumission de la raison, qui essaye de contrer la répétition, soumission de la raison à la foi. Le plus important, dit le texte, et le sens même de la vie, c'est le respect de la loi, avec un grand L, celle que Dieu a donnée à Moïse. Et ce respect de la loi doit se conjuguer avec des principes de vie simple, en cohérence avec la morale divine. Les plaisirs simples de la vie quotidienne, ces bonheurs simples, être ensemble, travailler, manger, boire, apprécier les gens qu'on aime, ces principes simples, sont des dons de Dieu dont il faut savoir profiter, même si l'on sait qu'il y a de l'injustice dans le monde. Vous voyez, il y a de l'injustice dans le monde, on ne pourra pas réformer le monde, mais le plus important, c'est le lien à Dieu. Donc ça, c'est typiquement une approche théologique. Il y a un réalisateur suédois qui s'appelle Ingmar Bergman, qui avait fait un film qui s'appelait Les fraises sauvages, vous connaissez peut-être, qui était l'illustration en fait de cette conception des choses. Je pourrais pas développer la manière dont Bergman interprète le Coëlette dans son film, hein, mais il y a un rapport manifeste, hein, avec ce texte-là. On y retrouve la thématique du bonheur simple. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un philosophe peut faire de ce texte? Est-ce qu'il peut en tirer des éléments de réflexion? Des éléments de réflexion. Pensez bien que si on veut essayer de philosopher à partir de cette maxime, on va essayer de le faire hors de tout contexte biblique, puisque la raison, d'abord, elle s'appuie sur une approche universaliste, universelle, c'est-à-dire hors dogme religieux particulier. En plus de cela, le texte, vous avez vu, se réfère à la foi. Est-ce qu'on peut avoir une interprétation, je dirais, laïque, en tout cas purement rationnelle, de cette thématique? Et comment est-ce qu'on peut l'exprimer d'un point de vue philosophique, cette thématique? Autrement dit, est-ce qu'on peut problématiser avec des concepts philosophiques ce que nous dit dans le domaine biblique le texte de l'Ecclésiaste? Alors la réponse est oui, mais au prix d'un travail d'élaboration des concepts, hein, qui consiste à se demander si cette répétition dont parle l'auteur anonyme du texte, si cette répétition, d'abord, on peut la constater à tous les niveaux. Alors tous les niveaux, c'est simple, il y en a deux. Naturel, culturel. Naturel, le niveau naturel, c'est le niveau des lois de la physique, des lois de la biologie. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la physique développe une vision mécaniste du réel. Une vision mécaniste, ça signifie quoi? Ça signifie que pour la physique, le principe même de la science, qui est aussi donc le principe même de l'univers matériel, si on croit à la physique, hein, s'appelle le principe de la causalité. Le principe de causalité nous dit quoi? Tout a une cause, et les mêmes causes, dans les mêmes conditions données, produisent les mêmes effets. Autrement dit, que nous dit la physique? Elle nous dit, en physique, rien de nouveau sous le soleil. les lois de la physique qui organisent le champ du réel actuellement sont les mêmes que celles qui étaient au départ, au début de l'univers. Les lois physiques, elles ne changent pas. De la même manière que la vitesse de la lumière, elle n'a jamais évolué. Il n'y a pas une époque où la vitesse de la lumière était inférieure ou supérieure à celle d'aujourd'hui. Les lois de la physique, elles sont universelles dans l'espace et dans le temps. Donc en physique, rien de nouveau sous le soleil. Ça s'appelle le principe de causalité. Et s'il n'y avait pas ce principe-là, il n'y aurait pas de science. Puisque la science, elle repère quoi ? Des régularités. Et ces régularités, elle les appelle des lois. Alors l'autre dénomination maintenant, c'est aussi dire des constantes. Mais c'est pareil, hein, constante ou loi. C'est-à-dire des rapports constants. Rien de nouveau sous le soleil, c'est constant. Ça reste la même chose. Alors si la phrase du Qohelet de l'Ecclésiaste a un sens tout à fait valide pour le domaine de la naturelle, qu'en est-il de l'histoire humaine ? Est-ce qu'on peut dire aussi que dans l'histoire humaine, les choses se répètent ? Est-ce que l'histoire humaine se répète et répète les mêmes mécanismes ? Alors là, c'est la grande idée qui a traversé ce qu'on a appelé à partir du siècle des Lumières les philosophies de l'histoire, qui ont atteint, on va dire, le niveau le plus élevé d'expression peut-être sous la plume du philosophe allemand Hegel, hein, dont vous avez déjà entendu parler. Eh bien, les philosophies de l'histoire nous disent que si on veut chercher du sens à l'histoire, on doit admettre que l'histoire répète les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que dans l'histoire humaine, où les hommes nous donnent l'illusion de leur liberté, les mêmes mécanismes se répètent. Et il y a des indices qui nous permettent de sentir, même avant même de conceptualiser cette idée. Je sais pas, prenez n'importe quel livre d'histoire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous saute aux yeux. On a l'impression que un même moteur sous-tend l'histoire. Et ce moteur, c'est celui qui fait que les peuples se font la guerre. C'est celui qui fait que l'histoire est d'abord un bain de sang. L'expression n'est pas de moi. C'est-à-dire, alors Kant disait, c'est un champ de ruines. Et Hegel reprendra cette expression. L'histoire est un champ de ruines. Mais ça a été un champ de ruines, c'est un champ de ruines, ce sera un champ de ruines. Pourquoi ? Parce que le moteur de l'histoire, c'est le désir, et le désir qui nous fait vouloir opprimer l'autre, qui fait que chaque peuple est l'un vis-à-vis de l'autre comme un organisme qui cherche à développer sa puissance. Et Nietzsche lui-même, alors là je fais référence à Nietzsche, hein, qui reste dans ce jalon, et lui en plus en appliquant des concepts qui appartiennent au darwinisme, dit que la loi de l'histoire, le moteur de l'histoire, s'exprime par le fait que le fort veut toujours opprimer le faible. L'oppression des faibles par les forts. Voilà. Toute l'histoire est là. Après, vous ne faites que dérouler. C'est-à-dire qu'en fait, la sélection naturelle, la lutte des espèces, dont la nature nous donne le portrait, on la trouve aussi entre les peuples. Alors, entre les individus, c'est moins voyant, parce qu'il y a les lois qui polissent les relations humaines. Mais entre les États sont les uns vis-à-vis des autres, comme les espèces à l'état de nature. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui surplombe. Alors, vous allez me dire, il y a le droit international maintenant. On pourra en discuter, hein. Mais il y a cette idée que le moteur de l'histoire puise dans ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Schopenhauer l'a appelé ça le vouloir vivre. On peut appeler ça le désir. Mais un désir qui fait que chaque unité, chaque peuple, chaque ethnie, chaque civilisation veut avaler les autres. Et ce principe-là fait que l'histoire, qui nous apparaît comme diverse, à travers les cultures, à travers les progrès techniques qui colorent les époques, en fait, ne fait que dupliquer une même logique. Et cette logique, on la voit dans la violence de l'histoire. Voilà, en gros, bon, dans tout ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, bien sûr qu'on peut interpréter le pessimisme de l'Ecclésiaste d'un point de vue strictement philosophique, sans faire référence à la foi, à Dieu, à un contexte biblique. On peut l'interpréter en termes philosophiques, Et cette interprétation signifie que rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que ce qui domine, c'est donc la répétition. La répétition. Alors, est-ce que, finalement, si on constate que les mêmes choses se répètent dans l'histoire, est-ce qu'on n'en vient pas à considérer que, finalement, le pessimisme qui en découle nous amène vers une philosophie de l'absurde? Si rien ne peut être vraiment changé, tous les efforts sont vains. On est dans l'illusion lorsqu'on pense que demain sera nouveau, demain sera meilleur. Et cette idée-là, elle a irrigué tout un courant de pensée qui est apparu d'ailleurs à la fin du 19e siècle et qui s'est traduit à la fois sur le plan philosophique mais aussi sur le plan littéraire. Cette idée que les choses ne changent pas. Il y a une pièce de théâtre là que je voudrais citer qui exprime bien cette idée-là et qui a fait en filigrane des références à ce texte. Hein. C'est une pièce de l'écrivain irlandais Samuel Beckett qui s'appelle En attendant Godot. Le sentiment qui domine dans cette pièce, c'est l'ennui. Les deux protagonistes, alors ils s'appellent Vladimir et Estragon, deux clochards en fait, hein, dont la nudité même en fait est la métaphore de la nudité de l'homme face à l'absence de Dieu finalement. Hein. Donc ces deux clochards, ils s'ennuient. Ils passent leur temps à se chamailler puisqu'ils s'ennuient. Ils espèrent que quelque chose de nouveau va apparaître, qui va changer leur vie. Ils attendent un personnage énigmatique qu'ils appellent Godot. Godot, c'est l'immersion de la nouveauté, là. Godot. Et Godot ne vient pas. Il attend, il ne vient pas. C'est-à-dire que c'est une attente qui n'est pas satisfaite. Et ils sont dans la répétition, alors ils se chamaillent. Toutes les chamailleries, alors ils se disputent, en fait, c'est l'illustration magistrale par Samuel Beckett d'un thème philosophique là aussi qui est le divertissement pascalien. Pascal appelle le divertissement l'amusement. Divertere en latin, ça veut dire se détourner. On passe le temps en se détournant des choses essentielles, en particulier celles qui consistent à regarder en face sa terrible condition de mortel. Hein. Se divertir, c'est oublier sa condition, se perdre dans des chamailleries. Hein. Et c'est ce que font les deux protagonistes. Ils sont dans le divertissement. Et sans vouloir spoiler, comme disent les jeunes aujourd'hui, lors du deuxième acte, c'est pas Godot qui arrive.
Du divertissement. Merci pour l'illustration.
Voilà. Au deuxième acte, c'est pas Godot qui arrive. C'est Pozzo. Vous savez qui est Pozzo? C'est un personnage très dérangeant qui arrive. Il a un fouet. Il arrive affublé d'un autre personnage qui est son esclave. Pozzo, qui est bien entendu la métaphore du diable. Donc voilà, on attend là celui qui va changer le monde, qui va réformer les choses, Godot, et à la place, c'est Pozzo. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, ça nous amène dans un autre champ de réflexion, mais l'idée que si rien ne peut vraiment changer, si l'homme restera éternellement avec ses travers, enfin en tout cas tant qu'il y aura des hommes, hein, cette idée-là ne peut que causer un ennui qui est consécutif à une forme de dépression. Je dirais des dépressions philosophiques. Les hommes ne changent pas. Ils sont les mêmes aujourd'hui comme hier. Il y a autant de figures qu'on retrouve. C'est pour ça que les textes anciens nous apparaissent si modernes. Pourquoi est-ce qu'on peut s'émouvoir de tragédies grecques du 4e siècle avant Jésus-Christ en 2018 alors que ce sont des textes anciens? Il y a plein de siècles qui nous séparent des tragédies de Sophocle ou d'Euripide. Et pourtant, les personnages nous paraissent proches. Est-ce que c'est pas la preuve par l'exemple qu'on ne change pas? Rien de nouveau sous le soleil. Alors, vous pensez bien qu'il y a deux solutions. Ou bien continue ce parcours, et là on aboutit au nihilisme, au pessimisme philosophique, à une forme de lucidité mais extrêmement désespérée et désespérante, ou alors on essaye de contester les conclusions de l'Ecclésiaste et les conclusions philosophiques que ce texte permettrait de nous faire tirer. Est-ce qu'il n'y a pas dans l'histoire, naturelle ou culturelle, des indices qui tendraient à nous montrer que il y a eu et il y a encore du nouveau sous le soleil? Est-ce qu'il n'y a pas de l'originalité, c'est-à-dire des événements qui sont origine première? En philosophie, lorsqu'on parle d'originalité, le terme ne désigne pas l'excentricité, hein, comme quand on dit lui c'est un original. Originalité, ça veut dire au sens philosophique et premier, être origine première de quelque chose, c'est-à-dire être l'initiateur de quelque chose qui n'avait jamais été vu, entendu avant. Et si ça peut arriver, ça, si l'originalité au sens philosophique peut advenir, alors on ne peut plus dire rien de nouveau sous le soleil, parce qu'on aurait mis l'accent, mis le doigt sur un fait premier, une capacité à briser la répétition, c'est-à-dire l'enchaînement des causes et des effets. L'enchaînement identique, hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut identifier dans l'histoire de la nature ou dans l'histoire de l'homme, nature, culture, hein, des événements qui soient faits premiers, qui sont l'expression d'une spontanéité et non pas d'une répétition? Pardon.
L'art,
peut-être. Alors, il y a évidemment, bien sûr, qu'il y a des domaines. Alors, avant l'art, il faudrait d'abord s'intéresser à la science. La science nous décrit la nature. Mais il y a une idée qui échappait complètement et aux philosophes et aux savants jusqu'au XXe siècle, c'est que la nature pouvait avoir une histoire. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, enfin jusqu'à Darwin, en fait, hein, on opposait histoire et nature. On disait que l'histoire humaine, hein, c'est le lieu d'une évolution toujours inédite. Donc, on pensait qu'il y avait quand même de l'inédit dans l'histoire humaine. Hein. Mais surtout, la nature, c'était l'opposé de l'histoire, parce que on considérait que la nature avait des cycles qu'elle répétait sans cesse. Cycle des saisons, le cours des planètes, enfin. La nature, c'était le lieu de la répétition. Répétition des temps de germination, répétition des temps par lesquels la nature se reproduit, hein, gestation. Bon, vous comprenez l'idée. Donc la nature, c'était le lieu de la répétition même. Tout se répète dans la nature. On a vu comment elle se comporte une fois, on l'a vu pour l'éternité, si je puis dire. Et puis voilà qu'avec la théorie de Darwin, celle de l'origine des espèces, 1859, un savant anglais nous dit « Mais les espèces, elles ont évolué. Il y a des espèces qui n'existaient pas et qui sont apparues. » Et ça a créé un choc culturel. La simple idée d'une évolution des espèces. Choc d'autant plus profond qu'il était en contradiction avec la théorie dominante de l'époque qu'on appelait le fixisme et qui affirmait, en cohérence avec la Bible, que toutes les espèces vivantes avaient été créées d'un seul coup. Enfin, en 6 jours, hein. Mais surtout qu'il n'y avait pas eu d'évolution. Là, on nous parlait d'évolution. Dans la nature, c'est-à-dire apparition d'êtres vivants qu'on n'avait jamais vus avant. Et on a su après aussi disparition, hein, d'êtres qu'on ne verra plus après, en principe. Alors ça a jeté un grand désordre, parce qu'on faisait entrer du nouveau dans la nature. C'est ça la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution nous dit, non pas rien de nouveau sous le soleil, mais il n'y a que du nouveau. Il n'y a que du nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que c'est la conclusion inverse. Comment est-ce que c'est possible, ça? Alors non seulement les progrès de la science ultérieurs à Darwin n'ont pas contesté cette théorie, mais on comprend mieux maintenant comment ça peut se passer. Pourquoi il n'y a que du nouveau sous le soleil? Il n'y a que du nouveau dans le domaine de la biologie. Autrement dit, on a compris quelle était le mécanisme par lequel la nature produisait uniquement du nouveau. Ce mécanisme fait intervenir un niveau de réalité auquel on n'avait pas accès à l'époque. On a commencé à le subodorer, je veux dire, avec un monsieur qui s'appelait Mendel, qui aimait bien jouer avec les petits poils, et puis après avec Morgan. Bon, c'est avec la génétique. On sait aujourd'hui, je vous le dis en résumé, hein, que nous sommes tous constitués par une information primordiale, avec quatre éléments chimiques, hein, GATC, et notre ADN, notre composition génétique, est comparable à une suite de lettres, et lorsqu'on se reproduit, le texte de notre ADN se duplique, se reproduit. Et vous savez quoi ? Il arrive parfois que la nature, elle se trompe lorsqu'elle reproduit le texte de notre ADN. Il y a des erreurs de frappe. Et alors là, une idée mais extrêmement dérangeante. S'il y a une évolution des espèces, c'est à cause des erreurs de frappe. C'est ce qu'on appelle des erreurs dans le phénotype ou le génotype de la réplication de l'ADN. Alors ça, c'est une idée qui a aussi... C'est plus récent. Hein. L'an dernier, au baccalauréat, les élèves de terminale ont eu un texte de Michel Foucault qui parlait de ça, qui disait le moteur du progrès et de l'évolution des espèces, c'est l'erreur. Il y a eu beaucoup d'élèves qui n'ont pas compris. Hein. Ce texte est difficile. Hein. Mais cette idée que ce qui va produire la nouveauté, c'est pas un dessin intelligent, c'est des erreurs de frappe dans l'ADN, mais elle est extrêmement dérangeante. Ce qui veut dire que c'est peut-être pas la vérité, la finalité ou le dessin intelligent. C'est des aberrations génétiques. Alors après, ces aberrations, elles produisent des espèces qui ne tiennent pas nécessairement le coup. Darwin, quand il avait fait son tour du monde, hein, avait noté des espèces extrêmement bizarres. À un moment donné, c'est aux îles Galapagos, il observe des rats kangourous. Vous avez déjà vu des rats kangourous ? C'est une alliance entre un rat et un kangourou. Et Darwin se dit, mais pourquoi Dieu fait-il... des associations aussi étonnantes. À ce moment-là, ils pensent encore les choses en ces termes. Et puis, il y a des espèces qui tiennent pas le coup, et d'autres qui tiennent le coup, c'est-à-dire qui s'adaptent aux conditions de la vie terrestre. Ce principe-là, tenir le coup, par rapport au fait de ne pas tenir le coup, ça s'appelle la sélection naturelle. Vous savez. Bon, alors, autrement dit, pourquoi est-ce qu'il y a de la nouveauté dans le domaine du vivant ? Parce que la nature fait des erreurs de frappe. Je vous assure que cette idée-là, c'est une des idées les plus dérangeantes jamais produites par toute l'histoire des sciences. L'erreur comme chef de file, comme cocher de l'évolution. À moins que ces erreurs fassent elles-mêmes... Alors là, je ne veux pas entrer dans ce débat-là aujourd'hui. Hein. Mais est-ce que ces erreurs ne rentrent pas dans une logique supérieure ? Parce que ce qu'on a constaté, et on ne sait pas pourquoi, c'est que sur la chaîne d'ADN, il y a uniquement certaines parties qui sont soumises à ces erreurs de frappe. Il y a des parties de la chaîne d'ADN qui... On ne sait pas à quoi elles servent, qui comportent une information, mais on ne sait pas exactement à quoi elles renvoient. Et là, il n'y a pas d'erreur de frappe. Comme si le domaine des erreurs de frappe qui vont donner l'évolution, donc la nouveauté, était circonscrite à un certain nombre de chaînes informatives. Bon, vous voyez, donc ça reste quand même très très compliqué tout ça. Bon, alors aujourd'hui, plus personne ne remet en cause l'idée que la nature produit du nouveau en permanence. Hein. Et ce nouveau, on l'appelle l'évolution. Mais au niveau de la physique, je vous l'ai dit tout à l'heure, la vitesse de la lumière, elle n'a pas changé. On parle de constante physique. Les grandes lois de la physique, elles sont les mêmes hier qu'aujourd'hui et que demain. On ne peut pas changer une loi en physique, sinon ce n'est plus une loi. Eh bien, figurez-vous qu'un deuxième tremblement de terre est apparu au XXe siècle, puisqu'on s'est aperçu d'abord qu'il y avait une histoire de l'univers. Cette idée aurait paru complètement absurde à quelqu'un comme Hegel, hein, par exemple. Une histoire de l'univers. On pensait que l'univers était éternel, qu'il n'avait pas de commencement. Et là, avec l'observation du ciel, notamment avec les travaux d'un certain Edwin Hubble, on a compris que l'univers est en expansion, mais que cette expansion, elle a un début. Alors là, vous savez qu'à partir de là, on a réussi à reconstituer les grandes étapes de cette expansion, à donner un âge à l'univers. L'expression l'idée même que l'univers a un certain âge, mais c'était totalement absurde au XIXe siècle. Cet âge, bon, vous savez, on situe l'âge de l'univers physique connu, hein, 13,7 milliards d'années. Et à partir d'un point dont la conceptualisation pose aussi de gros problèmes, hein, un point zéro qu'on nomme le Big Bang. Donc on a réussi, alors, mais je vous ai dit, ça pose des problèmes épistémologiques monumentaux, hein, à partir du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, il y a une histoire de l'univers, et cette histoire, et c'est ça qui est important, elle n'est pas constituée d'événements qui se répètent. Je vous donne un exemple. Entre zéro, enfin ce fameux temps zéro, et 300 000 ans après le Big Bang, l'univers, on ne peut avoir aucune image de l'univers. Parce que figurez-vous qu'on peut avoir des images de l'univers très anciennes, puisque la lumière qui a été diffusée à ce moment-là, elle comporte ces images. Bon, mais jusqu'à de 0 à 300 000 ans après le Big Bang, la lumière ne diffusait pas d'informations. Elle était trop couplée avec la matière, on va dire. Il y a eu une dissociation. En fait, la lumière a commencé à envoyer de l'information 300 000 ans après le Big Bang. Ce qui veut dire qu'entre 0 et 300 000, on n'aura pas d'image de l'univers. C'est en l'an 2000, hein, qu'une sonde appelée WMAP américaine nous a donné l'image la plus ancienne possible de l'univers. Parce que plus on voit loin dans l'espace, plus on voit loin dans le temps. On avait l'image de l'univers la plus ancienne qui soit. À ce moment-là, moi j'étais à Toulouse, et des amis à moi qui travaillaient au CNES me disaient, c'est comme si on voyait l'image d'un bébé. C'était très ému. Hein. Et on ne peut pas avoir une image plus ancienne. L'image la plus ancienne, c'est 300 000 ans après le Big Bang. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'évolution de l'univers, il n'y a que de l'inédit. Il n'y a pas des choses qui se répètent. Alors vous allez me dire, oui, mais regardez, il y a quand même des choses qui se répètent. La répétition de la révolution de la Terre autour du Soleil, la révolution du Soleil autour de la galaxie, la Voie lactée, c'est vrai, ça se répète. Mais ça se répète dans une histoire qui, elle, est inédite. Ce qui nous apparaît comme purement cyclique et répétitif, c'est-à-dire les rotations, hein, comme la rotation de la Terre, encore une fois, autour du Soleil, ce qui nous apparaît comme répétitif, c'est que la surface des choses, quand on va aux profondeurs, c'est-à-dire quand on se place au niveau de l'univers entier, quoi, il n'y a que de l'inédit. Autrement dit, à son niveau le plus élevé d'observation et d'abstraction, dans l'univers physique, il n'y a que du nouveau. Alors là, je ne peux pas dire sous le soleil, quoi. Il n'y a que du nouveau. Donc, aussi bien en biologie qu'en physique, nous sommes face à un caractère perpétuellement inédit. En fait, l'idée de répétition apparaît dans ces deux contextes, hein, comme une pure illusion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la subversion des concepts, là. On est passé d'un côté à l'autre, complètement. Alors, dites-moi, est-ce que c'est pas au niveau de l'histoire, peut-être, que les choses doivent se jouer? D'abord, avant même de parler de l'histoire collective, mais parlons de l'histoire individuelle. L'histoire individuelle, c'est-à-dire les relations interpersonnelles entre individus, est-ce qu'ils sont l'expression de la répétition ou pas? On a tous le sentiment que nous sommes libres. Et par conséquent, notre liberté même, notre libre arbitre, nous donne ce pouvoir d'agir différemment de ce qu'on faisait précédemment. Nous avons tous l'idée et le sentiment que nous pouvons créer du nouveau dans notre vie. Je crois l'avoir dit une fois, souvent les psychanalystes, quand ils reçoivent des patients à qui ils demandent « qu'est-ce qui vous motive pour faire un travail thérapeutique ?» Et lorsqu'ils entendent cette phrase, apparemment elle revient souvent, Je fais une psychanalyse parce que je veux repartir à zéro. Enfin, c'est un ami psychanalyste qui m'a dit ça. Quand il entend un patient dire ça, il dit « Oulala, celui-là, il est mal parti. » On ne peut pas repartir à zéro. Parce que là, c'est le meilleur moyen pour augmenter sa névrose. Hein, puisque la névrose est interprétée comme le refoulement. Comme ce qui vient d'un refoulement. Vouloir repartir à zéro, c'est-à-dire faire table rase du passé, ça s'appelle un refoulement. Et ça, c'est le moteur des névroses et des psychoses. Enfin, en tout cas, des névroses, ça, c'est... Bon, bref. Alors, est-ce que dans le domaine des relations interpersonnelles, qui constituait le domaine où on pensait que l'homme était le plus libre, le plus capable de faire du nouveau dans sa vie, est-ce qu'au contraire, c'est pas là où on va retrouver le plus de répétition? Et c'est exactement ce résultat-là vers lequel nous ont conduit ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Qu'est-ce que la sociologie, si ce n'est une discipline qui nous apprend que les normes sociales, les stéréotypes, les préjugés, les normes de comportement, je parle au niveau social, hein, font que chez les êtres humains, les comportements n'ont pas de surprise. C'est dans les relations humaines qu'il n'y a pas de surprise. Il y a certains proverbes qui expliquent ça très bien. Souvent on critique les proverbes, mais bon, parfois ils sont véhicules de préjugés aussi, hein, mais un proverbe comme moi j'aime beaucoup ce proverbe parce que il est très vrai, je trouve. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Ça, c'est un schéma de répétition, ça. Ben voilà, en fait ce proverbe là nous dit il n'y a pas de surprise, hein, dans les comportements. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Alors il y en a d'autres qu'on peut discuter, celui qui vole un œuf vole un bœuf, ça arrive des fois, hein. Il y en a un autre qui nous dit pour vivre heureux vivons cachés. Oui. Oh là, qu'est-ce que c'est vrai, ça. Bon, bref, vous voyez comment au niveau des comportements humains on croit qu'on est dans la surprise permanente. Il n'y a rien de plus répétitif que les comportements sociaux. Moi, je le vois en tant qu'enseignant auprès de mes élèves, je vois comment une classe, par rapport à sa dénomination, à sa section, elle se conduit exactement comme on attend qu'elle se conduise. Les L, ils ont une certaine conduite. Les S aussi. Les STMG aussi. Enfin, on voit que nous sommes tous pris dans des schémas de comportement qui sont dans des mécanismes de répétition. Et en fait, c'est peut-être dans le domaine psychologique, ou en tout cas dans le domaine humain, et non pas dans le domaine de la nature, qu'il y a le plus de sans surprise.
C'est mimétique.
Et c'est mimétique. Alors je ferai observer que c'est ce que dit l'Ecclésiaste, puisque lorsqu'il prend des exemples de la répétition du même, il ne se réfère pas au Big Bang, il se réfère à des comportements humains. Il dit, il y aura toujours des assassins, il y aura toujours des victimes, il y aura toujours des coupables, il fait référence à des comportements humains. Et c'est ces comportements-là qui sont ciblés. C'est pas la nature, il parle pas de la nature, il parle de la culture, quoi. Par conséquent, là, la réflexion, si on la conduit sur le domaine de la psychologie et après de l'histoire aussi, hein, la réflexion nous montre que peut-être le domaine qui nous semblait au départ être celui qui échappait le plus à la répétition, le domaine humain, c'est peut-être celui-là qui est vraiment concerné. Mais là, ça voudrait dire quoi? Ben, ça voudrait dire que l'idée que nous faisons de nos capacités réformatrices, elle est sinon illusoire, ou en tout cas extrêmement sujette à caution, hein, l'idée de notre liberté. Moi, j'ai toujours entendu dit par de grands spécialistes de la psychologie que je me souviens d'un psychanalyste qui s'appelle Lucien Israël, qui avait écrit un ouvrage remarqué dans les années 70. On disait que c'était la Bible des étudiants en psychologie. L'ouvrage s'appelait « L'hystérique, le sexe et le médecin ». Si vous trouvez cet ouvrage, vous le connaissez peut-être, hein, c'est un must. Hein. Moi, à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Il montrait que les grandes lignes de notre personnalité, les grandes lignes, elles ne changent pas. En fait, on croit qu'on change. On se dit, ah, mais qu'est-ce que j'ai changé par rapport à mes 15 ans où j'étais absolument idiot? En fait, on ne change pas. Parce que notre vie psychique, c'est ce qu'il dit, hein, va être structurée autour de certains éléments, autour de certains pôles. Alors, ça peut être d'abord un pôle fantasmatique. Il y a des fantasmes qui structurent notre personnalité. Fantasme, c'est-à-dire relation imaginaire à l'autre. Il y a un certain nombre d'éléments, et pas simplement le vécu, bien sûr que le vécu intervient. Hein. Mais d'abord, une structuration plus interne, je dirais plus inconsciente, quoi. Et ce que disait ce psychanalyste, mais à la suite d'autres, hein, c'est que même lorsqu'on croit qu'on a beaucoup changé, les grandes orientations de notre personnalité, elles ne changent pas tant que ça. C'est très difficile de considérer qu'un être a vraiment changé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des transformations radicales, hein, mais c'est beaucoup moins fréquent que ce qu'on croit. Parce que nous sommes faits d'un seul bois. Alors après, ce bois, il peut prendre une certaine patine, il peut montrer des aspects de lui-même qu'on n'avait pas vu jusque-là. Mais voilà, au niveau de la psychologie, c'est peut-être là où on a le moins de prise et donc de capacité réformatrice. En tout cas, c'est une des leçons des sciences humaines. Au niveau de la sociologie, de l'ethnologie, de la psychologie, c'est-à-dire, et au niveau de l'histoire aussi. Donc voilà, on en revient à cette notion de répétition. Alors, arrivé à ce niveau de la réflexion, on comprend mieux pourquoi, comme en réaction aux sciences humaines, qui nous mettaient le nez face à la répétition que les codes sociaux et que les conduites psychologiques génèrent. Il y a eu comme une espèce de réaction, mais qui a été aussi violente que cette découverte de la répétition du même en l'homme fut dérangeante. Je m'explique. Hein. À quelle époque on trouve la philosophie de la liberté la plus débridée qui soit ? Celle qui ose affirmer que l'existence précède l'essence. Celle qui ose affirmer que nous n'avons pas de nature. Ben, c'est l'existentialisme de Sartre. Mais c'est une philosophie tellement outrée, tellement extrémiste, j'ose le dire, hein, comme si nous n'avions pas de nature, que sa radicalité s'exprime par le fait qu'elle est comme en réaction face à ce que les sciences humaines commencent à nous dire, et que Michel Foucault, dans Les mots et les choses, a si bien exprimé, hein, à savoir que lorsqu'on parle de la liberté du jeu, J-E, Michel Foucault écrit dans Les mots et les choses, 1966, lorsqu'on parle de la liberté du jeu, on ne peut opposer à cette thèse, dit-il, qu'un rire philosophique. C'est une des phrases qui termine l'ouvrage, hein, Les mots et les choses. La liberté, vous savez, quand on posait la question à Jacques Lacan, le fameux psychanalyste, est-ce que ça existe, la liberté ? Lacan ne répondait pas à cette question. Il riait. C'était à rire. On voit des reportages où il rit. Et il faisait comme Foucault, finalement. Ça ne veut rien dire, la liberté. En tout cas, dans le domaine de la psychologie, et je dirais des sciences humaines en général, on ne pense plus les choses comme ça. Enfin, la liberté, c'est n'importe quoi. On voit bien que si on commence à remettre en question l'idée de liberté, c'est bien parce que on est dans le domaine de la répétition. Alors, est-ce qu'on peut s'arrêter là et dire finalement ce que nous apprend notre modernité, hein, notre époque, c'est que ce qu'on croyait être le domaine de la répétition, la nature, en fait c'est le domaine de l'inédit, et ce qu'on croyait être le domaine de notre liberté, l'homme, est en fait le domaine de la répétition. Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? On ne peut pas s'arrêter là. D'une part parce qu'il y a des activités humaines qui sont là pour essayer de justement remettre en question notre propre inertie. Et ce domaine, enfin le domaine privilégié, on l'a dit, c'est l'art. Qu'est-ce que l'art, en tout cas tel qu'on le conçoit aujourd'hui, sinon qu'une tentative pour transmuter, pour dérégler, pour inquiéter les codes comportementaux, les codes sociaux, tout ce qui dans la vie est en fait sans surprise. C'est pourquoi, et dès le XVIIIe siècle, hein, plus au XIXe siècle encore, hein, les grands penseurs en philosophie, hein, de l'art, ont dit que la qualité première d'une œuvre d'art, c'est l'originalité. Et originalité non pas au sens de excentricité, mais d'être origine première, c'est-à-dire briser la répétition. Briser la répétition de la norme qui donne un académisme. Hein. L'art est là pour nous dire qu'il peut y avoir du nouveau sous le soleil, y compris chez l'homme, malgré tous les déterminismes qu'il traverse, sociologiques, psychologiques, et puis aussi les normes juridiques aussi, hein, qui font qu'on doit avoir un certain type de comportement au sein de la cité. Alors moi je voudrais vous dire, parce que je ne voudrais pas terminer sur l'art, on aura l'occasion d'ailleurs la prochaine fois, hein, je ferai un tour d'horizon de toutes les grandes, pour le prochain thème, hein, grandes doctrines sur l'art. Moi, je voudrais vous dire que je voudrais, moi, finir et revenir dans le domaine religieux. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette problématique que j'ai ici évoquée en partant d'un texte biblique, est-ce qu'elle, d'une certaine manière, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à un contexte théologique en rappelant, et je dirais presque contre le texte de l'Ecclésiaste ici, hein, que s'il y a bien un domaine où des hommes ont essayé de se réformer à travers la religion, c'est bien le christianisme. Alors, il ne s'agit pas de faire l'apologie d'une religion vis-à-vis d'une autre, mais qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'a été pensé ou vécu, en tout cas à l'époque, hein, d'après ce que nous disent les historiens, bien sûr, hein, le message évangélique, c'est quand même la promesse d'un monde meilleur, d'un monde nouveau, d'un monde différent de l'ancien monde. Est-ce que c'est pas ça, est-ce que c'est pas comme ça aussi qu'il faudrait peut-être, hein, je pose la question, entendre cette idée de la bonne nouvelle? Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir du nouveau, l'homme va se réformer, ou en tout cas on lui montre la voie pour se réformer. Par conséquent, après, quoi qu'on pense de la manière dont ça s'est produit ensuite dans l'histoire, hein, peut-être les travers humains ont peut-être travesti cet espoir de réforme. Est-ce que les grandes religions, et là je fais référence spécifiquement au christianisme, n'ont pas essayé de justement faire en sorte de produire une révolution radicale, je dis bien radicale, peut-être qui n'a peut-être jamais été entendue jusqu'au bout, j'en sais rien, hein, qui consiste à changer radicalement le rapport de l'homme à son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'ai jamais lu une phrase comme ça dans toute la philosophie grecque. Vous pouvez lire tout Aristote, tout Platon, il y a marqué qu'il faut faire preuve de solidarité. Platon dit qu'il faut être fraternel, hein, philia. Mais jamais aime ton prochain comme toi-même. C'est radical. Hein. Aime tes ennemis. Pardonne. Il y a des choses dans le Nouveau Testament qui sont d'une radicalité, d'une nouveauté, et moi je me pose la question de savoir si la nouveauté de ces textes-là, des textes qu'on trouve textes des premiers chrétiens, hein, cette nouveauté-là, est-ce qu'elle est vraiment parvenue jusqu'à l'oreille des hommes? Il faut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est que la volonté réformatrice, on la trouve dans l'histoire religieuse aussi. Avec, hélas, hein, le constat que, dans les faits, les hommes ont continué, et y compris au niveau des guerres de religion, à développer leurs travers, hein, puisque vous savez que, par exemple, la guerre entre les catholiques et les protestants n'a fait que dupliquer la violence humaine, hein, la répéter, au nom même d'un message qui prétendait mettre terme à cette violence et réformer les cœurs. Voilà. Donc, pour terminer, moi je vous dirais que d'un point de vue de la science, il n'y a et il ne peut y avoir que du nouveau sous le soleil. Pour la science, la répétition du même se révèle purement illusoire, parce que on a le nez trop collé aux choses. Pour l'être humain, la capacité à se réformer, qui est une des obsessions de la religion, a trouvé, en tout cas au XXe siècle et au XXIe siècle, son expression peut-être la plus haute dans l'expérience artistique, esthétique. Et je voudrais vous dire aussi que c'est parce qu'on a pris conscience de toute cette dialectique entre répétition et volonté de réforme, volonté de briser cette répétition, c'est parce qu'on a pris conscience de cette dialectique-là qu'aujourd'hui, la réflexion la plus importante en philosophie concerne le rapport au temps individuel et au temps de l'histoire. Je vous remercie. Merci.